la deuxième partie du message, et nous allons commencer la semaine dernière sur les différents mardis. Nous considérons les épîtres de Paul. Ces épîtres sont destinés à des communautés, à des églises. On a laissé Timothée parmi les églises. Et nous sortons de ces épîtres, alors il y a tellement de choses à voir, mais nous en ressortons les grands principes spirituels qui garantissent, je le rappelle, la vigueur, la bénédiction, la vie de l'Église. Nous sommes déjà passés par l'épître aux Romains, nous avons considéré l'épître aux Galates, aux Philippiens, avec les grands principes spirituels incontournables sur lesquels chaque membre d'église, chaque mission, chaque ancien, chaque diacre, chaque disciple, chaque pasteur, chaque église devrait être parfaitement au clair. On est passé aussi par les Colossiens la semaine dernière, on est arrivé aux Éphésiens et on est dans cette deuxième partie. Je vous ai dit que l'épître aux Éphésiens pouvait être un petit peu scindée un peu en deux parties dans la pensée de Paul. La première partie, je vais vous faire un résumé rapide, c'est que l'Église est réellement comblée. Beaucoup de commentateurs bibliques ont appelé l'épître aux Éphésiens la chambre du trésor. Parce que s'il est vrai qu'il y a des tas de choses qui sont magnifiques dans les épîtres, des richesses spirituelles qui sont dévoilées, qui sont expliquées, que l'apôtre Paul et les autres apôtres mettent sous nos yeux, l'épître aux Éphésiens, plus que d'autres, c'est pour ça qu'elle est appelée la chambre du trésor, est un condensé de bénédictions extraordinaires, parce qu'ici, plus qu'ailleurs, Paul va mettre en évidence tout ce que l'Église est et tout ce qu'elle possède déjà dans le Dieu trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et on voit que Paul, dès le début de l'Épître, insiste beaucoup sur les richesses spirituelles qui lui a été acquise par le Dieu trinitaire. Et quand on voit les prières de Paul pour les Éphésiens, il leur dit, je ne vais pas relire, mais il leur dit, je prie Dieu qu'il vous donne un esprit de révélation dans sa connaissance. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur au sujet de la gloire de son héritage, que vous discerniez avec tous les saints les dimensions de son amour, largeur, hauteur, etc., l'infinie grandeur de sa puissance, que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude, etc., etc. On s'aperçoit que ces vérités glorieuses n'étaient peut-être pas si évidentes que ça à saisir pour eux, et le sont-elles réellement pour nous? Est-ce qu'on les saisit réellement, spirituellement parlant? En d'autres termes, est-ce que ces réalités n'étaient pas un petit peu plus dans leur tête que dans leur cœur? Je ne sais. Mais on voit que l'apôtre Paul est réellement préoccupé par leur compréhension de ces choses. Et soit l'église d'Éphèse avait peut-être soit pas trop conscience, ou alors, parce que nous avons tous à progresser, c'est normal, ou alors peut-être qu'elle a eu tendance à les négliger. Il a fallu que l'apôtre Paul leur rappelle et puis que ces choses s'inscrivent non plus dans l'intellect, mais dans l'être intérieur. L'Église, c'est réellement le but de Paul dans ces trois premiers chapitres. L'Église doit réellement réaliser à quel point elle est comblée. La rédemption, le rachat, la délivrance, on a parlé de l'adoption, héritier de Christ, co-héritier de Christ, on va en reparler ce soir, scellé du Saint-Esprit. Il insiste sur la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. C'est l'Esprit Saint, sauvé, rendu à la vie avec Christ, assis dans les lieux célestes en Christ. On voit que Paul insiste beaucoup sur le fait qu'ils ont un statut. Il ne s'agit pas seulement, bien aimé, de ce que Dieu a fait pour eux, ou de ce qu'il a fait, évidemment, par leurs conséquences pour nous, comme par exemple le rachat, la délivrance, le salut, le pardon des péchés, qui sont déjà certes extraordinaires et des sujets de louange maintenant et pour l'éternité, on est d'accord, mais il s'agit de ce qu'il a fait de chacun d'entre nous, de ce qu'il a fait de chaque disciple. Il ne s'agissait pas seulement de nous sauver du péché, de nous pardonner, de nous offrir ensuite quelques bénédictions. Non, il a fait de nous, les fils et les filles du roi des rois, les frères et les sœurs de Jésus. Jésus n'a pas peur de m'appeler son frère. Jésus n'a pas peur de m'appeler sa sœur. co-héritiers de Christ, régner avec lui pour l'éternité. Nous avons une position, nous avons un rang, nous avons une statue, nous avons un statut, c'est-à-dire que nous avons une position, nous avons une légitimité, nous avons un nom. Pardonnez-moi, non, nous ne sommes pas des enfants de seconde zone. Je vais être choquant, nous ne sommes pas des bâtards. Nous avons une légitimité, nous sommes les enfants, les fils et les filles du roi des rois, de façon pleine et entière. Et c'est cette parole qui résonne en moi, je vous en avais parlé la semaine dernière, quand le fils aîné était là dans la maison, qu'il ne connaissait même pas malheureusement la dimension de la grâce, il ne connaissait même pas son propre statut vis-à-vis de son père. Il l'a découvert quand il a vu la puissance de la grâce dans la restauration du prodigue de son frère cadet. Et là, le fils aîné est venu vers son père, il s'est mis en colère. Il a dit, mais pourquoi tu ne m'as pas donné un chevreau? Tu lui donnes tout à lui. Pourquoi tu ne m'as pas donné un chevreau pour que je me réjouisse? Et le père lui dit, mais tout ce que j'ai est à toi. Pourquoi tu me demandes un chevreau? Tout ce que j'ai est à toi. Et on se rend compte, bien aimé, qu'en réalité, en considérant cette épître et tellement de choses dans la parole, Jésus nous dit, et tout ce que j'ai est à toi. Ils ont aussi cette paix profonde, enfin ils sont censés l'avoir, mais aussi la conséquence de notre réconciliation. En Christ, vous avez été rapprochés, Christ, notre paix, nous a réconciliés, et ce privilège merveilleux d'un accès libre et permanent, avec ces rappels qui reviennent, chapitre 2, verset 3, et chapitre 3, vous êtes des gens de la maison de Dieu, vous êtes une habitation de Dieu en esprit, vous êtes co-héritiers de Christ, vous avez été scellés, c'était au chapitre 1er, pardon, scellés du Saint-Esprit, on va en reparler ce soir, parce qu'il n'y a rien de plus précieux que la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs. Et Paul insiste sur le fait que c'est un gage, c'est une preuve de notre héritage, non seulement présent, mais aussi à venir pour l'éternité. Le sceau, c'est ce que les rois, les hauts dignitaires, mettaient sur cette cire pour cacheter des enveloppes. Il y avait le sceau, c'était la preuve que c'était effectivement tel dignitaire, tel roi qui avait effectivement mis sa marque. Il y avait ce sceau, c'est une preuve d'authenticité, le Saint-Esprit en nous, c'est la preuve d'authenticité de notre salut et de qui nous sommes, c'est la preuve aussi de notre appartenance et de l'avenir merveilleux que nous avons pour lui, avec lui, pardon, par lui, pour l'éternité, dès à présent et pour l'éternité. Il est aussi, Paul, la plénitude de celui qui rend tout et en plus. Avant de m'emmener au ciel, le but de la vie chrétienne, c'est de me faire vivre le ciel sur la terre. Même si je traverse des moments difficiles, on ne parle pas de circonstanciel, on parle de qualité de vie intérieure. Oui, j'irai au ciel, merci Seigneur, mais en attendant d'aller au ciel, le ciel, il est répandu dans mon cœur, et ça, c'est l'œuvre aussi du Saint-Esprit. Ce soir, on voit une deuxième partie, parce que l'Église, certes, elle a été comblée, mais tellement comblée, que du coup, elle en devient naturellement responsable. Chacun pour sa part. Puisqu'on le sait, le grand privilège implique toujours de grandes responsabilités. Et dans son approche, l'apôtre Paul, dans les trois premiers chapitres, a tellement insisté sur tout ce que l'Église est et tout ce que l'Église possède par le Dieu trinitaire, Père, Fils, Esprit. Et puis ensuite, on prend ensemble, au chapitre 4. Les textes qu'on va survoler, on va tout lire, bien sûr, s'affichent ici, au chapitre 4, et il commence tout de suite. Alors qu'il avait terminé le chapitre 3 en disant à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, etc. Il commence tout de suite en disant « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Et là, il commence tout de suite à accentuer, après avoir parlé de tous les privilèges, de parler de la responsabilité de chacun. « Marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Verset 2, en toute humilité, douceur, patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour, ça on l'avait dit un dimanche au sujet de l'Église, le fait de se porter par le dessous les uns les autres, verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Toujours au chapitre 4, on descend, verset 17, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie, étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux et de leur durcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sentiment, livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ce n'est pas, ça c'est très important, on va en parler, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. C'est très intéressant ce que Paul dit ici dans l'original. Vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Il n'a pas dit que vous avez appris des choses sur Christ ou des choses au sujet de Christ. Le verbe est réellement transitif, y compris dans l'original. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Un petit peu plus bas, toujours au chapitre 4, on est au verset 29, qu'ils ne sortent de votre bouche, on est toujours dans la responsabilisation, qu'ils ne sortent de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, s'il y a lieu, parce que des fois il vaut mieux rien dire, s'il y a lieu de parler, quelques bonnes paroles servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il réinsiste sur le fait que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, clameur, calomnie, méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Ça aussi, on l'avait abordé sur des dimanches. On descend encore un petit peu au chapitre 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Et puis, on va le lire parce que c'est juste magnifique au chapitre 6, mais je n'aurai pas le temps de développer ça, ni ce soir, ni en un seul message, parce qu'en réalité, c'est l'objet de toute une étude, on la fera plus tard en septembre. Chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos mains la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, pardon, et priez pour tous les saints. Amen. Trois pensées fortes, mais la troisième, c'est l'armure spirituelle. C'est trop long à fond. Même en un seul message, ça n'irait pas. On va terminer les épîtres aux églises, et puis on verra ça un petit peu plus tard, certainement en septembre. Je ferai une série de messages spécifiques sur ce point, mais on voit que l'apôtre Paul insiste bien sur le fait que chaque chrétien, chaque disciple est responsable de son propre équipement, de ses propres outils spirituels. On verra ça plus tard. Mais là, les deux points, du coup, il n'en reste que deux. Deux pensées fortes, deux éléments clés dans ces passages. Le premier, je vous l'ai mis ici, c'est de ne plus marcher selon la vanité de nos pensées. 4, 17, chapitre 4, verset 17. Ne plus marcher. Marcher, dans la parole de Dieu, on le sait, la marche, c'est une métaphore, c'est une image pour désigner notre façon de vivre. Nos attitudes, ce que nous sommes, notre façon de nous comporter. Ce qui est vain, c'est ce qui est sans fondement. Ce qui est vain, c'est ce qui n'a pas de fondement, c'est ce qui est inutile. C'est vain, ça ne sert à rien, ça ne mène nulle part, c'est ce qui ne va rien produire. Toutes les pensées qui sont humaines, le psaume 94 dit « Dieu connaît les pensées de l'homme ». L'être humain, pas la femme aussi, désolé. Dieu connaît les pensées de l'être humain, de l'homme. Et il sait qu'elles sont vaines, elles sont sans fondement, elles ne produisent les pensées humaines, même si parfois elles sont bien gentilles, bien sentimentales, elles n'accomplissent pas la volonté de Dieu, elles ne produisent rien de bon spirituellement parlant, elles sont dans le meilleur des cas stériles, ou alors elles peuvent aussi nous amener dans le mur, elles sont vouées à l'échec. Donc ne plus marcher selon la vanité, selon nos pensées humaines totalement inutiles, mais de marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, chapitre 4, verset 1er, ou en d'autres termes, il le reprend Paul dans d'autres épîtres, de marcher, c'est-à-dire de vivre d'une manière qui soit digne de Christ, c'est-à-dire de vivre comme lui. Paul va citer ici quelques attributs, mais en réalité, il y a tous les attributs de Christ qui sont tous plus beaux, tous plus passionnants les uns que les autres. Le frère a eu à cœur d'insister pendant le temps de chant sur la question de la patience, et c'est vrai combien la patience de Christ nous émerveille, est aussi, comme le reste, un sujet de louange, d'action de grâce et d'émerveillement. Il cite l'humilité, la douceur, la patience, notamment le soutien mutuel des frères les uns envers les autres. Mais ce sont des choses que j'ai déjà abordées des dimanches, je ne m'étale pas là-dessus. Et l'idée de la sœur, c'est, voyez, Éphésiens, voyez, bien-aimés, je vous ai montré tout ce que Dieu a fait de vous. Vous devez réaliser, c'est à vous, c'est votre part de le réaliser, de vous y intéresser, c'est votre part de vous l'approprier, c'est votre part de comprendre que vous n'êtes plus n'importe qui. Vous n'êtes plus n'importe qui. 5-8, vous êtes des enfants de lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes des enfants de lumière. Vous êtes aussi, sa pensée ici, c'est vous êtes des disciples de Christ. J'aime beaucoup cette formulation ici, le verbe apprendre, qui effectivement est transitif, autant là dans notre traduction que dans l'original. Vous avez appris Christ, c'est mantano, je vous l'ai mis ici, c'est apprendre par usage et par pratique. Bien aimé, nous n'apprenons pas le but de la vie chrétienne, la connaissance de Christ, c'est pas d'apprendre des choses sur Christ. Nous n'apprenons pas des choses sur Dieu. Nous n'apprenons pas des choses sur le Seigneur. Nous apprenons Christ. Nous l'apprenons lui. Nous apprenons à vivre comme lui, il vit. Mantano, apprendre par usage et par pratique, ce qui a donné plus tard mathétès, de mantano vient mathétès. Mathétès, qui, le disciple, qui est un terme qu'on retrouve de mémoire 200 ou 250 fois, rien que dans le Nouveau Testament, c'est bien plus qu'une notion, c'est une vérité, c'est un principe incontournable dans la théologie du Nouveau Testament. Le but, on ne l'a pas lu, mais je vous ai lu ici aussi 4-13, le but c'est la maturité de la foi, le but de la vie ici, c'est dans sa marque d'arriver à la maturité de la foi, à la ressemblance parfaite de Christ. C'est comme si Paul disait, c'est vers ce mode de vie, c'est vers ce modèle que vous devez tendre, que vous devez aspirer. C'est quoi le but de ma marche chrétienne? C'est d'être toujours plus semblable à Christ. C'est de lui ressembler toujours de plus à Christ, de penser comme lui, de raisonner comme lui, de vivre comme lui, d'avoir les mêmes sentiments que lui. Et c'est ça qui, dans ce que Paul transmet, c'est comme s'il disait aux Éphésiens, c'est ça qui doit être votre préoccupation. Des préoccupations, vous en avez eu, vous en aurez. C'est normal, il n'y a pas de souci. Mais il y a une préoccupation qui est principale, c'est que vous réalisiez au plus profond de vous-même qui vous êtes devenu en Christ et que, ayant réalisé ces choses, votre préoccupation principale soit de les mettre en pratique et que vous le viviez. Alors, ça peut paraître effectivement impressionnant. Je dirais même que ça peut sérieusement donner le vertige, ça peut donner le tournis. Je me rapproche de Christ, je dois, pas par mes propres forces, derrière il y a toute la question du Saint-Esprit, parce que sans lui c'est mort, c'est voué à l'échec. Tout ça, ça peut paraître effrayant, parce que quand je considère Christ dans sa parole, quand je contemple ses œuvres, ses paroles, ses pensées, son cœur, ses sentiments, ses attributs, son caractère, tout ce qu'il a, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, la barre est tellement haute, c'est presque effrayant. Et l'objectif est si parfait, mais Seigneur, c'est pourtant la volonté de Dieu, et par le Saint-Esprit, c'est tout à fait possible. Et voyez ces choses dans les disciples à Éphèse, aurait dû susciter un réel, ça a suscité un réel amour, ça a suscité une réelle passion. Mais souvenez-vous, la première des sept églises à laquelle Jésus s'adresse par l'intermédiaire de Jean quand il est sur l'île de Patmos, la première des sept églises, c'est justement l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse, le Seigneur est obligé, il lui dit qu'il y a des bonnes choses dans cette église, mais il lui dit ce que je vais contre toi, c'est que tu as non pas perdu et que tu as abandonné ton premier amour. Et quand on considère l'église d'Éphèse, vous avez son historique un petit peu dans le livre des Actes des Apôtres, dans le livre des Actes, Actes chapitre 19, Éphèse connaît un excellent démarrage. L'apôtre Paul, alors que Apollos est à Corinthe, l'apôtre Paul va à Éphèse, il rencontre là quelques disciples, il leur dit « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ?» On n'a même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Et le baptême, nous on est au baptême de Jean-Baptiste. Donc l'apôtre Paul va s'occuper d'eux, ils vont être baptisés par immersion, ils vont être baptisés, remplis du Saint-Esprit. Et puis là, à partir de ce moment-là, l'apôtre Paul va rester environ 2 ans à Éphèse, pour enseigner, pour poser les fondements de cette église. La parole se répand avec puissance. On lit dans Actes 19 que l'apôtre Paul faisait des miracles. Dieu faisait des miracles extraordinaires au travers des mains de Paul, au point qu'on prenait les linges qui avaient touché Paul, on les posait sur les malades et ils étaient guéris. Donc c'était totalement... à Éphèse, il faut comprendre que le démarrage a été extraordinaire. Il y a eu un impact foudroyant, phénoménal. Il faut savoir que Éphèse, c'était un haut lieu d'idolâtrie avant que Paul n'arrive. C'était un haut lieu d'idolâtrie. Les Grecs venaient adorer Artémis. Les Romains venaient adorer Diane dans leur temple qui était l'une des sept merveilles du monde antique. Et à partir de ce moment-là, quand l'apôtre Paul arrive avec l'évangile et toutes les confirmations miraculeuses de l'évangile, le commerce des statues s'effondre, les ténèbres reculent. Merci Seigneur, c'est extraordinaire. Et puis, il y a toute cette fondation de l'église d'Éphèse. Oui, l'évangile se répand avec puissance. L'apôtre Paul reste 2 ans. C'est pas n'importe qui pose le fondement, c'est Paul. Quelque temps après, il leur écrit cet épître magnifique. Et environ 40 ans après, c'est pas beaucoup 40 ans dans la vie d'une église. Environ 40 ans après, le Seigneur lui dit, si tu ne te repens pas, je vais devoir enlever le chandelier de sa place. Ce ne sera plus l'Église, le sens où moi je la conçois. Oh, il y aura toujours une association cultuelle déclarée en préfecture. Tu ne seras pas l'Église au sens où moi je la conçois. Il faut que tu te repentes. Et vous voyez, bien-aimé, quand on considère l'ensemble du parcours de l'Église d'Éphèse, ben, je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, le Seigneur ne reproche rien, il m'amène simplement considérer les choses essentielles, vitales et bénissantes. Et en réalité, et lui, ça me fait profondément réfléchir. Ont-ils négligé Est-ce qu'il y avait des choses qu'il n'avait réellement pas comprises ou comprises, mais finalement fini par abandonner, par négliger, tu n'as pas perdu, tu as abandonné. Il y a aussi quelque chose sur, enfin, quelqu'un sur lequel l'apôtre Paul va sérieusement insister, c'est sur la question de la relation au Saint-Esprit. Cette deuxième pensée forte, c'est de ne pas négliger dans nos cœurs, dans nos vies. La personne glorieuse du Saint-Esprit, vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Vous êtes scellé du Saint-Esprit. C'est un gage de votre héritage. C'est ce que vous avez de plus précieux. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien qui n'a plus de valeur que la présence de Dieu, le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Il n'y a rien de plus précieux qui n'a plus de valeur que sa présence en moi. C'est lui, la présence de Dieu, concrètement, la présence de Dieu. C'est l'Esprit Saint en nous et au milieu de nous. La sanctification, marcher pour aller de plus en plus vers la ressemblance de Jésus. La croissance de l'Église, c'est lui. Et tout, en réalité, tout dépend de lui. Le Saint-Esprit a toujours fait la différence. Même Jésus n'a pas fait l'impasse sur le Saint-Esprit. Un jour, une brave sœur me disait, et bon, le Saint-Esprit, parce que vous allez y avoir droit, hein. Je suis un pasteur équilibré, mais pentecôtiste avec toutes les facettes du Saint-Esprit, et une église qui n'est pas remplie du Saint-Esprit n'est pas l'église au sens où Jésus la conçoit. Mais plus tard, dans les temps qui viennent, nous serons amenés à considérer pas seulement des miracles, des dons ou des manifestations de puissance, mais de considérer l'ensemble des facettes uniques de la personne du Saint-Esprit dans sa nature, dans ce qu'il est. Et en réalité, le Saint-Esprit a toujours fait la différence. Il fait et il fera encore toujours la différence. Et en définitive, je disais simplement que quand vous regardez le Seigneur Jésus, c'est l'exemple parfait d'homme parfaitement rempli du Saint-Esprit. Même Dieu le Fils n'a pas fait l'impasse sur le Saint-Esprit. Si un jour une brave sœur me disait, avec beaucoup d'amour, je lui réponds, elle me disait, ah mais tu sais Stéphane, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, bon ça fait quelques semaines que tu nous en parles, mais tu sais, on n'a pas besoin du Saint-Esprit pour aller au ciel. Je dis, mais ça c'est bien vrai ma petite sœur. Mais oui, c'est vrai. Mais tu n'as absolument pas besoin. Bon, c'est quand même lui qui t'a convaincu de péché par la parole que lui-même a inspirée, etc. Et c'est lui qui t'a fait naître de nouveau. Mais ok, tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour aller au ciel, je suis d'accord. Du Saint-Esprit, t'es encore sur la terre. Si tu vas au ciel demain, ok, c'est bon, pas de... oui, mais le problème, c'est que tu vas rester sur la terre. Et toute la nuit va s'épaissir dehors. Et donc, trois impératifs relatifs au Saint-Esprit qui sont évidemment de notre responsabilité, autant individuelle que collective, qui assurent la qualité de vie des membres de l'Église, qui assurent la qualité du corps et l'Église, son unité, sa force, sa bénédiction. Trois impératifs, vous efforçant, chapitre 4, verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit, parce que rien n'est plus important que l'unité de l'esprit, de l'unité de l'Église. Et dans l'original, j'en avais parlé un dimanche, c'était juste deux, trois phrases, ce là-dessous dans l'original, vous efforçant, ça désigne vraiment une attention particulière. J'ai tellement conscience de la préciosité, de la beauté, de la valeur du Saint-Esprit dans mon être intérieur que je suis même prêt à subir quelque injustice si nécessaire. Je préfère ravaler ma salive pour ne pas affecter l'unité de l'Église. La présence du Saint-Esprit dans ma vie est trop belle, elle est trop précieuse. Conserver, vous s'efforçant, évoque une application. Il y a vraiment un soin, c'est méticuleux, c'est comme un travail chirurgical, comme quelqu'un qui est là, je ne sais pas, un peintre, j'en sais rien, on ne fait pas des trucs, non, on ne fait pas un barbouillage, on n'est pas dans l'approximation, dans les à peu près. On est très précis. Et ce qui est précis dans ma vie, c'est de ne pas attrister le Saint-Esprit, c'est de ne pas affecter l'unité de l'Église. Même, je le redis, tant pis, même si ça doit me coûter, l'unité de l'Église est trop précieuse, mais ça, on est déjà beaucoup parlé les dimanches. Je passe au point suivant. 4, chapitre 4, versets 29 et 30. n'attristez pas le Saint-Esprit. Et le contexte, même s'il est vrai que l'Esprit Saint, on peut l'affecter, on peut l'attrister de différentes manières. On vit des comportements, il y a des tas de choses. Mais là, ce qui est remarquable, c'est que l'apôtre Paul va le placer, n'attristez pas le Saint-Esprit, dans le contexte direct de l'usage de la langue. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Ça aussi, j'en ai parlé sur des dimanches. Je crois que c'est important d'être vraiment, vraiment bien aimé. On va pas se flageller, on va pas se faire des reproches, on n'est pas là pour chercher le mal, soupçonner le mal. Mais je crois simplement que c'est ce que Paul cherchait à leur montrer la beauté de qui ils étaient, ces Éphésiens. La beauté de ce que le Dieu trinitaire avait fait d'eux, de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils avaient, de ce qu'ils avaient reçu, et ce caractère tellement précieux du Saint-Esprit. Mais en réalisant la beauté, la valeur du Saint-Esprit, il faut aussi, bien aimé, en réaliser la fragilité. Ça peut paraître ambivalent. Le Saint-Esprit est autant Dieu que le Père. Troisième personne de la Trinité est tout autant Dieu que le Fils Jésus. Parfaitement égal en attributs, en caractère, en éternité, en puissance. On verra tout ça ensemble le moment venu. Et c'est vrai que quand on considère l'ensemble des facettes du ministère du Saint-Esprit que la Bible nous fait comprendre par des images, par des métaphores, oui, le Saint-Esprit est un feu. Le feu est extrêmement puissant parce qu'il purifie, parce qu'il m'anime, parce qu'il me fait vivre, parce que le feu, c'est extraordinaire. Oui, le Saint-Esprit est aussi un vent. Quand vous voyez des vents violents dans les tempêtes, dans les tornades, à 300 km/h qui vous déracinent des arbres centenaires, le vent est extrêmement puissant et on peut connaître cette puissance du Saint-Esprit, non pas pour nous déraciner ou nous faire tomber, comme on partageait avec quelques-uns dimanche, non, mais pour oxygéner nos cœurs, pour purifier nos vies et puis nous affermir. Mais ce vent est tellement puissant pour enlever de nos cœurs, enlever de nos vies ce qui ne lui plaît pas. Et puis c'est une eau, c'est un fleuve puissant, comme on le voit dans différents passages de l'Écriture, c'est une autre analogie, parce que le Saint-Esprit va pouvoir avec puissance irriguer toutes les parties desséchées de mon âme. Il va irriguer. Et puis c'est une huile. L'huile est quand même un élément plus, parce que va passer, il repasse plusieurs fois pour consoler, pour apaiser, pour rassurer, pour guérir l'être intérieur. Ça, c'est l'huile de l'esprit. Et oui, mais il y a un cinquième point, c'est que le Saint-Esprit, quand il est venu sur Jésus, il est venu sous la forme corporelle du colon. Les disciples l'ont reçu comme un feu. Mais Jésus, lui, il a reçu parce qu'il était déjà parfaitement pur, il n'avait pas besoin de purification. Il est venu sur Jésus sous la forme corporelle d'une colombe. Et vous savez, une colombe, vous lui faites ça. Et la colombe effarouchée va aller se mettre dans un coin. Parce que la colombe, oui, certes, le Saint-Esprit est, oui, tout-puissant, mais en même temps, il est colombe parce qu'il suffit de pas grand-chose pour que dans ma vie, il ne va pas partir. Il ne va pas m'abandonner. Il reste, il est là. Et comme il est attristé, comme il voit quelque chose en moi sur lequel je ne veux pas céder, je refuse de changer alors que ça fait un moment qu'il me met. Ma résistance, mon entêtement, une parole, une simple parole de travers, une parole de travers à mon épouse, une parole de travers à un frère, une sœur, à quelqu'un dans l'église, peu importe, une parole, le Saint-Esprit. Je ne peux pas entendre ça parce qu'il est parfaitement pur, il est parfaitement saint, il est parfaitement Dieu. Il ne peut pas entendre ça. Alors l'esprit est attristé, c'est pas qu'il m'abandonne, parce que s'il m'abandonnait, je serais foutu, pardonnez-moi l'expression. Mais du coup, étant attristé, il va se retrouver comme la colombe, il va se retrouver dans un. Et c'est à moi de veiller sur la qualité de ma relation avec l'Esprit Saint. Il est une colombe, il est extrêmement puissant, mais il est aussi. Pardonnez-moi de le dire ainsi, vous comprenez les guillemets que je mets, il est aussi tellement fragile et nous avons chacun pour notre part à veiller à la qualité de notre relation avec le Saint-Esprit. C'est le dernier point, le troisième impératif. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit, n'oubliez pas qu'il est colombe, qu'il est fragile. Une seule parole peut l'attrister et vous allez perdre des bénéfices du Saint-Esprit dans vos vies. Et enfin, une fois que je cesse soit des paroles, soit des pensées, soit des résistances. Soit... Une fois que je sais ce qui attriste l'esprit, ensuite j'ai la responsabilité d'être rempli de l'esprit. Chapitre 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est abîmant. Soyez au contraire rempli de l'esprit. C'est le troisième impératif au sujet du Saint-Esprit dans l'Épître aux Éphésiens. Ce qui est aussi la responsabilité de chaque disciple, c'est à nous de le faire. C'est notre part, une autre traduction de Bible a encore mieux rendu ce texte. Autrefois, la dignité. Remplissez-vous vous-même. Quand vous avez cessé d'attrister, quand vous avez enlevé de vos vies ce qui pourrait le mettre à l'écart, ce qui pourrait l'amener à ne plus relâcher sa présence en vous et au milieu de vous, quand vous avez fini, quand vous arrêtez d'attrister, quand vous êtes à nouveau bien en règle et bien au diapason avec lui, vous avez une autre forme de responsabilité, c'est à vous de venir boire, à montrer à ce fleuve de l'esprit, remplissez-vous vous-même de l'esprit. Parce que sa personne, sa vie, ses œuvres, sa bénédiction sont tout aussi nécessaires, indispensables aux disciples que nous sommes, que les bénédictions du Père, que les bénédictions du Fils, que les bénédictions du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos vies. Jésus disait à ses disciples, bientôt je vais m'en aller, sur tous les chapitres de Jean, chapitre 16, au sujet du Saint-Esprit, l'autre passage encore, mais essentiellement là. Il vous est avantagé que vous. Et ici, quand le Seigneur leur a dit ça, qu'est-ce qu'il est encore en train de nous dire, le Seigneur? Qu'est-ce qu'il nous dit encore, Jésus? Il est avantagé que je m'en aille. Parce que quand je serai parti, quand je serai remonté vers lui, je vous enverrai le consolateur de la réponse. Littéralement, dans la pensée de Jésus, c'est celui qui m'est identique en tout. L'autre moi-même, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Mais il est parfaitement identique en point, en toutes choses. Et vivre la vie du Saint-Esprit, bien aimé, ce n'est pas une option. C'est indispensable, évidemment. Et quand on parle d'être rempli, quand Paul parle d'être rempli du Saint-Esprit, il ne parle pas seulement de manifestations surnaturelles comme une parole de connaissance, un don de foi, une prophétie ou un miracle ou des choses comme ça. Il ne parle pas seulement de manifestations surnaturelles. Non, soyez remplis de l'Esprit, c'est-à-dire remplis de lui, remplis de qui il est. L'Esprit, c'est l'Esprit de sainteté. Si je suis rempli du Saint-Esprit, amen. L'Esprit, c'est l'Esprit de joie. Si je suis rempli de l'esprit, il y aura toujours une joie qui va transcender les circonstances de ma vie. L'esprit, c'est l'esprit de paix. Au-delà de toutes les tempêtes de mon existence, l'esprit de paix en moi, si j'en suis rempli, être rempli du Saint-Esprit, c'est réellement une clé essentielle de la vie chrétienne. Rempli d'amour, l'esprit d'amour, l'esprit de force, l'esprit de connaissance de l'Écriture, de l'Éternel, de l'Écriture, c'est pareil. Esprit de sainteté, esprit de connaissance de l'Éternel, toutes les facettes de son amour, toutes les facettes de sa personne, esprit de sagesse. Et si je suis rempli du Saint-Esprit, il y a des tas de problèmes que vous n'aurez plus, que je saurai gérer. Il y a des tas de problèmes dans lesquels je ne vais plus me former. Rempli du Saint-Esprit, ça signifie rempli de sagesse. Rempli du Saint-Esprit, c'est rempli de toutes les facettes de sa personne. Et si je me remplis quotidiennement, si je sais, j'apprends dans ma communion intime avec lui à me remplir de l'esprit, tous ces attributs vont habiter en moi avec lui largement et vont me porter l'étout, l'atout, tout. Et c'est lui qui a pris la place de Jésus, c'est lui qui habite, pas seulement au milieu de nous, mais qui habite en nous, c'est lui dont nous devons être remplis avec une église compliquée, on en parlera plus tard, une église réellement compliquée comme Corinthe. Au bout de deux épîtres, vous relirez, vous prenez 2 Corinthiens 13, 13. L'apôtre Paul clôture 2 épîtres avec une église vraiment compliquée. Que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communication, koinonia, communication, communion, communion, il nous donne une bonne communication, la communication du Saint-Esprit soit votre partage. Voilà ce que l'apôtre Paul présente, pas seulement en termes de privilèges spirituels, l'Église comblée, mais aussi sa responsabilité de ne plus marcher selon la vanité de ses pensées, mais de vivre Christ jour après jour de respecter, d'être particulièrement attentif à la personne du Saint-Esprit, vous efforçant, n'attristez pas, soyez remplis. Et puis, pour ce qui est de l'armée spirituelle, Ephésiens 6, comme je vous l'ai dit, ça c'est trop long, on a tout étudié ça dans quelques semaines. Amen. Soyez